France Inter.
Aujourd'hui, la grande saga des mammifères, racontée par...
Vincent Fernandez, paléontologue, chercheur au synchrotron à Grenoble.
Et Guillaume Billet, paléontologue, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Quand on pense aux mammifères, on imagine souvent une sorte de revanche, celle de petites bêtes discrètes tapies dans l'ombre des dinosaures et qui auraient profité de leur disparition il y a 66 millions d'années pour enfin conquérir la planète. Mais cette histoire-là est trompeuse car les mammifères ne sont pas les héritiers des dinosaures. Ils sont non seulement leurs contemporains, mais surtout leurs aînés. Bien avant l'apparition du premier dinosaure, en effet, il y avait plus de 260 millions d'années, leurs ancêtres dominaient déjà les paysages de la Terre. À cette époque, un seul continent, la Pangée, une faune foisonnante qui peuplait déjà les rivières et les plaines, les thérapsides, ces animaux à l'allure de reptiles portaient pourtant en eux des traits étonnamment familiers avec des dents différenciées, une mâchoire plus puissante, une ouïe en devenir, parfois des comportements sociaux complexes. C'est donc là, dans ce monde d'avant les dinosaures, que bat le tout premier cœur de notre lignée. Puis viennent les grandes crises avec des extinctions massives et des mondes qui s'effondrent. C'est à ce moment-là que les dinosaures émergent et s'imposent, mais les mammifères, eux, ne disparaissent pas pour autant. Ils changent de stratégie, ils rapetissent, deviennent nocturnes, fouisseurs, opportunistes. Pendant plus de 160 millions d'années, ils vivent avec les dinosaures. Et quand l'astéroïde met fin au règne des géants, les mammifères ne surgissent pas de nulle part. Ils sont donc déjà là, prêts à se déployer dans les niches laissées vacantes par les dinosaures, grâce à leur résistance et leur capacité d'adaptation. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Dans notre imaginaire, l'évolution des mammifères est systématiquement liée à l'extinction des dinosaures. Il y a 66 millions d'années. Pourtant, cette grande aventure s'enracine bien plus loin dans le temps, avant même l'apparition de ces géants.
Et ce soir, France 5 diffusera à 21h un documentaire inédit aux origines des mammifères, le monde avant les dinosaures, dans la case Science Grand Format, film auquel vous avez participé, Vincent Fernandez. Vos études s'intéressent à quelle période de la vie des mammifères? Alors, peut-on même parler de mammifères?
Alors, pour ma part, j'ai déjà travaillé sur les mammifères, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment les précurseurs des mammifères, les thérapsides, et vraiment, justement, la lignée qui a donné naissance aux mammifères.
On peut dire que ce sont nos ancêtres, quand même, ou pas?
En quelque sorte, oui. Ouais. C'est ce qui précède les mammifères, donc oui, ça fait partie de nos ancêtres. Oui.
À quoi sert le synchrotron à Grenoble, là où vous travaillez, qui est un accélérateur de particules qui produit des rayons X, pour vos recherches en paléontologie, alors?
Alors, effectivement, donc on produit des rayons X, et la différence avec les autres scanners à rayons X, comme à l'hôpital ou dans les laboratoires, c'est qu'on a un faisceau beaucoup plus intense. Donc on va avoir 10 000 milliards de fois plus de rayons X que dans un hôpital.
Et donc ça permet de faire quoi, par exemple, pour avoir une idée un peu ?
Ça permet d'avoir des images beaucoup plus nettes, ou de scanner des objets avec beaucoup plus une résolution beaucoup plus fine. Et c'est particulièrement intéressant pour les fossiles, parce qu'on a aussi un gain de sensibilité aux différences de contraste. Donc quand on veut voir un os fossilisé dans de la roche fossilisée, ça nous aide énormément à voir ce qui se passe.
Donc ça sert à voir, mais ça sert à donner quel type d'informations alors sur un fossile?
On peut vraiment... une des premières informations que les gens veulent avoir, c'est en général extraire virtuellement le fossile de son encaissant, que ce soit de l'ambre ou que ce soit de la roche.
Ouais.
Mais comme c'est présenté dans le documentaire, c'est regarder, aller plus loin et donc regarder les cavités endocrâniennes pour tirer des conclusions sur la forme du cerveau, quel lobe était plus développé. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses.
Ce que vous appelez les encaissants, c'est quoi? C'est la matière qui entourait le fossile?
Oui, la roche.
À l'origine,
oui.
comme l'ambre par exemple,
voilà.
Qui est une bonne matière d'ailleurs pour conserver les fossiles. Vous travaillez beaucoup avec un autre chercheur qu'on voit d'ailleurs dans le documentaire, qui s'appelle Julien Benoît, qui lui est en Afrique du Sud. Cette partie du monde, on le découvre aussi particulièrement intéressante pour étudier les précurseurs des mammifères. Il y a beaucoup de fossiles là-bas?
Oui, je pense que les planètes se sont alignées pour les paléontologues et cette période de l'histoire.
Ouais.
On avait un bassin de sédimentaires qui était, il y avait des montagnes énormes au sud de l'Afrique du Sud, et du coup des sédiments qui se déversaient en continu pendant des millions d'années, et qui ont permis d'enregistrer l'histoire sur les continents terrestres, notamment sur cette période juste avant l'arrivée des mammifères.
Et vous, Guillaume Binet, vous qui êtes spécialiste des mammifères du Mésozoïque, alors à quoi correspond cette période pour compléter justement avec les travaux de Vincent Fernandez ?
Donc, Mésozoïque, bon, y a trois périodes différentes à l'intérieur du Mésozoïque. La première, il y a encore un peu les thérapsides qui étudient Vincent, et il y a des formes qui sont encore d'assez grande taille. Puis, à un moment donné, va avoir plus qu'une lignée de thérapsides qui va survivre, avec des tailles qui vont être un peu moins importantes. Les dinosaures vont émerger.
Oui.
Et là, on va avoir l'image classique de ce que l'on retient souvent dans le grand public, et ce qui a été le cas longtemps au niveau scientifique, c'est de penser que les mammifères étaient un peu tapis dans l'ombre à ce moment-là,
c'est ça,
des dinosaures qui se développaient sur les continents.
Mais le Mésozoïque, est-ce qu'on peut dire que c'est l'ère des dinosaures, ou c'est pas tout à fait juste, parce que justement, il y avait un peu de ce qui précédait dans cette période ?
Donc c'est pas tout à fait juste, et puis si on dit que c'est l'ère des dinosaures, c'est qu'on se concentre sur les vertébrés déjà. Donc on pourrait parler de nombreux autres groupes qui ont été très développés à cette période. Mais les dinosaures étaient les vertébrés, les animaux les plus grands, donc les plus impressionnants, et c'est pour ça qu'on retient cette image. Mais
ouais,
ils l'ont été pendant surtout les deux tiers du Mésozoïque, donc les deux tiers les plus tardifs.
Vincent Fernandez, quand on remonte avant l'ère des dinosaures justement, parce que c'est vraiment cette histoire, on parle des précurseurs, donc des mammifères, à quelle période est-ce qu'on se retrouve précisément pour comprendre toute cette origine ?
Alors, la diversité des thérapsides, on les appelle aussi les reptiles mammaliens, justement, pour faire cette mosaïque de caractères anatomiques, la transition des caractères
qui reptiliens. Qui va nous emmener vers les mammifères. Ouais.
Et du coup, on est sur le Permien, donc la dernière phase du Paléozoïque, donc avant le Mésozoïque.
Ça fait combien de millions d'années, ça, pour
autour
pour
de 265 millions d'années, on commence à avoir le début de ce groupe-là. Et du coup, les thérapsides chevauchent la limite paléozoïque-mésozoïque, mais ils subissent les conséquences des crises biologiques qui s'enchaînent à cette période.
Voilà, et c'est des sacrées crises. Hein.
Oui.
C'est pas de petits événements, on va en reparler avec vous. On les présente comment, les thérapsides, alors, donc ces précurseurs des mammifères, c'est quoi, des gros lézards primitifs ? C'est comme ça qu'on peut les imaginer ou...
Pas vraiment, parce qu'ils ont une posture qui est à mi-chemin entre un lézard qui va vraiment ramper au sol,
ouais,
et un mammifère qui a une structure érigée. Les thérapsides sont comme s'ils étaient en position de faire des pompes tout le temps.
Ok, très bien.
C'est quelque chose qui est assez compliqué à visualiser.
Donc, extérieurement, ça ressemble plutôt à un reptile, c'est ça ?
Extérieurement, ils n'ont pas une peau de reptile, ils n'ont pas non plus une peau de mammifère, mais ça ressemble, c'est vraiment, je pense... Peut-être que si on les voyait aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à vouloir les mettre dans des reptiles.
Ouais.
Et les caractères mammaliens sont peut-être déjà un peu cachés. On ne s'en rend peut-être pas compte de l'extérieur.
Et c'est quoi ces caractères mammaliens, alors, précisément ?
Bah déjà, c'est la dentition différenciée. Donc, ils commencent à avoir des incisives,
ouais,
des canines et des dents différentes derrière les canines, qu'on n'appelle pas encore des molaires. Mais voilà. Ils vont avoir le développement d'une cloison nasale qui va séparer le palais de la cloison nasale.
Mmh.
Puis au fur et à mesure, ils vont commencer à développer le reste.
Donc ça, Guillaume Binet, ça y est, on est déjà sur la route des mammifères avec ces caractères-là ?
Oui, il y a certains caractères qui sont très clairement annonciateurs, des caractères qui vont être typiques des mammifères. Après, ça évolue en mosaïque, hein, tout de manière progressive au cours du début du Mésozoïque. Pardon.
Ouais. On va écouter votre collègue Julien Benoît, justement, on en parlait, qui travaille en Afrique du Sud et qui évoque, c'est un extrait du documentaire, un fossile très ancien.
C'est un crâne qui a 266 millions d'années, qui est très très intéressant parce que c'est l'un des plus vieux fossiles qui a été découvert dans le Karoo. Il appartient à la famille des Byrmosuchiens, qui ont les caractéristiques les plus primitives pour les thérapsides, donc ça fait quand même de lui probablement le plus vieux thérapside qu'on ait jamais découvert. Et ici, à l'arrière de l'œil, il y a une fosse qui s'appelle la fosse temporale et qui est un point d'attachement pour un muscle qui permet de fermer la mâchoire. Et ça, c'est une caractéristique qui définit la famille des thérapsides.
Voilà, avec ces fossiles très précieux, évidemment, très anciens aussi, Vincent Fernandez. C'est vraiment une évolution très lente, précisément, ces caractères mammaliens là, qui se mettent en place, que vous décriviez avec ces transformations qui sont quand même assez spectaculaires, hein, de la mâchoire, de l'oreille.
Ça dépend. Enfin, après, ça se passe sur des millions d'années, donc un million d'années, c'est très très long. Mais il y a quand même des choses qui arrivent par grosses vagues. On va avoir des la dentition différenciée, c'est quelque chose qui est arrivé assez vite et qui s'est propagé. Et il y a eu une diversité de. Il y a eu 6 grandes lignées de thérapsides.
Ouais.
Et ils avaient tous ces dents comme ça. Et après, c'est comme les autres caractères qu'on va avoir. On a la fermeture du. Il y a un foramen sur le haut du crâne qu'on va avoir chez les thérapsides qui se referme, qu'on a plus chez les mammifères. Ça arrive très très vite. On va avoir le cerveau qui se développe, ça arrive à peu près au même moment. Il y a le bulbe olfactif qui se développe, ça arrive à peu près. Il y a des fois, ça reste à peu près stable et d'un coup, il va y avoir plusieurs choses qui s'enchaînent très vite.
Guillaume Billet, quand il y a des caractères comme ça qui sont largement adoptés, ça signifie quoi en fait d'un point de vue évolutif? C'est qu'il y a un avantage certain quand même?
Ça peut, oui. Souvent, c'est le cas. On peut imaginer aussi des caractères qui peuvent être plutôt neutres, qui peuvent être restés pour certaines raisons. Des fois, il y a des caractères qui évoluent en étant liés à un accroissement de taille, par exemple, et qui vont ensuite s'installer. Mais c'est vrai que souvent, c'est des caractères qui sont au moins pas désavantageux, et assez souvent avantageux pour un rôle fonctionnel donné.
Le documentaire de France 5, Vincent Fernandez, accorde une place assez importante à un désert, donc celui du Karoo en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel pour l'origine, justement, pour cette étude des précurseurs des mammifères, alors, sur place hein?
Donc, déjà, c'est le Karoo, c'est un endroit qui est très grand, ça fait à peu près le quart de la France. Et donc, c'est un désert, donc il est très aride. Et c'est quelque chose que les paléontologues adorent, parce que ça veut dire qu'on peut trouver les fossiles facilement. C'est-à-dire que la végétation ne cache pas les fossiles.
Ouais.
Et ça veut dire qu'on peut se balader à peu près partout dans le Karoo, qu'on a des roches de différents âges, et on est quasiment sûr de trouver des fossiles à chaque fois.
Ouais. C'était votre cas aussi quand vous étiez sur place
hein? Oui, j'ai fait plusieurs campagnes de fouilles.
Ouais. Il y a de bonnes pêches alors?
Oui, des fois, tous les sites ne se valent pas en termes de quantité de fossiles, mais il y en a certains où on trouvait des centaines de fossiles par jour.
Qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, d'assez remarquable pour illustrer ces précurseurs des mammifères dont vous êtes très fier?
En découverte de fossiles sur le terrain, pour les thérapsides, j'ai trouvé des choses, mais qui n'ont pas révolutionné leur histoire. En fait, le fossile qui a été le plus révolutionnaire, c'est plus un ancêtre des tortues. Et c'était une espèce qu'on connaît, qu'on appelle Eunotosaurus.
Mmh.
Et du coup, j'ai trouvé le plus vieux représentant de cette espèce.
Chez les reptiles.
Voilà.
Chez les ancêtres donc des tortues. Et vous, Guillaume Billet, où est-ce que vous allez pour étudier les mammifères cohabitant avec les dinosaures? Alors, ça remonte un peu le cours de l'histoire. Alors,
moi, j'étudie même les mammifères un peu plus tardifs, même après la crise crétacé-tertiaire, donc après l'extinction de la plupart des dinosaures.
Ouais.
Et les fossiles, j'ai principalement fouillé en Amérique du Sud, notamment en Bolivie, où on a un gisement dans lequel on a fouillé, on a les premiers mammifères placentaires d'Amérique du Sud et marsupiaux également. Et là, donc, on a eu la chance de trouver des squelettes complets, des crânes.
Ouais. Il ressemble à quoi, alors, si on prend un spécimen qui illustre bien justement cette période de fin des dinosaures et des...
Alors, on a là des mammifères qui sont de la taille, en tout cas celui auquel je pense, l'un des premiers placentaires donc connu en Amérique du Sud, c'est la taille, on va dire, un petit peu d'un hérisson, en gros. Des dents qui suggèrent un régime alimentaire plutôt insectivore.
Ouais. Vincent Fernandez, si on revient donc bien en avant, la taille justement des thérapsides, c'est très variable aussi. On a des grosses bêtes quand même.
Oui, on a des choses qui peuvent être gros comme des vaches ou des rhinocéros.
Donc on a une gamme aussi, là aussi, une diversité de tailles, de formes.
On en a des tout petits, gros comme des musaraignes et puis des animaux qui étaient très très gros.
Ouais. Donc vous le disiez, ces thérapsides ont traversé plusieurs crises majeures de l'histoire de la Terre. Pourquoi ces extinctions sont importantes dans l'histoire justement des mammifères?
Ça a isolé au fur et à mesure. Donc les thérapsides, il y avait 6 lignées. Il y a eu une première crise pendant le Permien où il y a 2 lignées qui ont complètement disparu.
Mmh.
Puis après, il y a la crise à la fin du Permien qui affaiblit énormément. Et du coup, au fur et à mesure, on isole une seule de ces lignées qui va donner les mammifères.
Ouais.
Donc si on avait été en compétition avec nos cousins thérapsides, peut-être qu'on ne serait pas là.
Mais ça raconte quoi sur leur capacité d'adaptation? Ceux qui ont survécu justement à ces grandes crises, c'est ceux qui n'étaient pas trop spécialisés, a priori, qui avaient une meilleure capacité pour vivre des événements majeurs comme ça?
C'est ce qu'on pense, oui, parce qu'à chaque fois, ce qu'on voit, par exemple, pendant le Permien, il y a beaucoup les gros prédateurs qui disparaissent et les gros herbivores qui, avaient des, qui étaient très spécialisés pour la nourriture.
Ouais.
Et c'est finalement les animaux qui pouvaient creuser des terriers ou qui étaient plus petits, qui ont besoin de moins de ressources énergétiques, qui survivaient un peu mieux.
Voilà pour ces ancêtres des mammifères qui ont donc régné sur la Terre avant l'arrivée des dinosaures. Mais c'est donc une autre histoire qui commence ensuite, celle d'une longue cohabitation, discrète, hein, on va voir, entre dinosaures et mammifères, mais assez décisive. Et puis vous allez répondre également aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur la page de La Terre au Carré, nos réseaux sociaux et vos messages vocaux sur l'application Radio France.
France Inter. Mathieu Vidard, La Terre au Carré.
En 1984, il m'a dit « J'ai trouvé un gros os dans la roche ». Je suis allé voir, et en effet, c'était un gros os. John a commencé à l'extraire. Au milieu de la journée, nous avons mis au jour le crâne complet d'un animal avec quelques dents qui dépassaient. Le crâne était enfoncé dans le sol, et nous avons dû creuser pendant plusieurs mois. En tout, il a fallu 23 ans pour sortir complètement ce squelette de la roche. Il s'agissait d'une espèce animale totalement nouvelle qui n'avait jamais été découverte, un dinocéphale très primitif.
Extrait toujours du documentaire Aux origines des mammifères, Le monde avant les dinosaures, c'est à voir ce soir sur France 5 à 21h. Vincent Fernandez et Guillaume Billet, vous êtes nos invités, vous êtes tous les deux paléontologues et donc on s'intéresse avec vous à ces premiers mammifères. Vincent Fernandez, on parle de dinocéphale là dans cet extrait, est-ce qu'il y a un rapport avec dinosaures ou c'est très trompeur au contraire?
D'un point de vue biologique, il n'y a pas de rapport du tout. C'est dino, ça veut dire terrible. Donc dans dinosaure, c'est terrible lézard. Dinocéphale, c'est terrible tête. Ouais. Parce qu'ils avaient des excroissances osseuses, ils avaient des crânes très épais. Donc c'est des têtes terribles.
Et là, le fossile dont on parle dans cet extrait, il est daté de quand alors exactement?
Il est du la fin du Permien à peu près, donc on est sur 265 millions d'années à peu près, ouais. Si je ne dis pas de bêtises.
Donc avant les dinosaures, là encore.
Bien avant les dinosaures,
ouais. Oui. 23 ans pour pouvoir vraiment définir ce fossile, Guillaume Billet, il faut être drôlement patient dans votre métier de paléontologue quand même, hein.
Oui, c'est sûr. Ouais. Il y a des fossiles qu'on peut sortir des fois rapidement, mais ouais. En fonction de l'encaissant, donc de la roche, de la nature du fossile, de sa complétude, ça peut être très très long.
Ouais. Qu'est-ce qui prend du temps exactement?
Bah déjà, si on a un fossile complet, grand, c'est-à-dire un squelette complet, si c'est des fossiles qui peuvent être enchevêtrés, si on a différents animaux les uns par-dessus les autres, et là, ça peut être très très compliqué à faire le tour, en fait. Et ouais. Puis, la dureté du sédiment, enfin de la roche, peut vraiment complexifier les choses, et après, ça peut être aussi longtemps de préparation en laboratoire aussi, hein. Après, on l'extrait sur le terrain, mais il y a beaucoup de boulot de préparation au labo.
Vincent Fernandez, qu'est-ce qu'on prend comme précaution, et comment on extrait justement un fossile comme ça, en fait? Qu'est-ce qu'on utilise comme outil? On n'est plus au pinceau, là, simplement, hein.
Là, oui, c'est il y a beaucoup marteau, burin pour.
Ah oui, quand même. Oui.
Ouais, bah scie circulaire, baramine.
Ah oui, carrément. Ouais. Okay,
on n'a pas peur des gros outils. On a déjà vu des marteaux piqueurs. Mais enfin, l'idée du coup, c'est de justement comme le travail de. Quand on extrait du terrain, on essaye de faire un travail grossier et de garder autant de roches que possible pour protéger le fossile. Donc il faut. Il faut trouver le juste milieu.
Parce qu'il y a de l'information précieuse aussi là-dedans?
Il peut y en avoir, mais c'est surtout pour que ce soit un bloc consolidé, parce qu'après, il faut le transporter parfois sur des centaines de kilomètres. Et du coup, on va creuser autour du fossile, on va recouvrir d'une coque de plâtre, on retourne l'ensemble, on referme avec du plâtre, et après, le transporter et finir avec des micro-burins au laboratoire.
Ouais. Guillaume Billet, à quel moment débute réellement donc, la cohabitation entre les dinosaures et les premiers mammifères? Donc là, on va quitter le règne des thérapsides, on va arriver vraiment aux mammifères. D'ailleurs, cette transition-là, elle se caractérise comment? Et elle se fait sur combien de temps, pour bien comprendre? De quand on a les premiers mammifères?
Déjà, je dois dire que ça, c'est un peu discuté, la datation des premiers mammifères. Il y a des estimations moléculaires sur la base donc, d'un outil qu'on appelle les horloges moléculaires à partir des mammifères actuels, qui, elles, vont signaler en général qu'on a une différenciation des mammifères à partir de la fin du Trias, enfin, cours du Trias.
Parlez-nous en millions d'années pour qu'on se le situe.
Donc, on va dire à peu près vers 217 millions d'années, je crois, avec 220 millions d'années, il me semble, c'est à peu près cette date-là.
Ok.
Et au niveau de ce que l'on a comme preuve paléontologique, là, c'est très débattu. En fonction des groupes qu'on inclut ou pas dans les mammifères, on peut avoir un accord avec les analyses moléculaires, c'est-à-dire une origine des mammifères dès la fin du Trias. Okay. Donc je disais vers 220 millions d'années, ou alors plus tardive au Jurassique, près de 40 millions d'années plus tard.
Et ces premiers mammifères, ils ressemblent à quoi alors exactement? L'appareil sur la taille, on a affaire à quoi?
Plutôt des
toutes petites.
Oui, plutôt petits, maximum quelques kilos, mais plutôt des centaines de grammes.
Ouais.
Et ça va être en gros le poids le plus commun. Pour les mammifères, durant le reste du Cénozoïque, il y a quelques formes qui seront un peu plus lourdes, mais ça va être toujours relativement modeste.
Ça, c'est étonnant quand même, Vincent Fernandez, parce qu'on quitte certains thérapsides qui étaient de la taille d'une vache, vous le disiez tout à l'heure, ou d'un rhinocéros, et on arrive donc à ces premiers mammifères tout petits.
Oui, mais du coup,
Comment on explique ça ?
Du coup, déjà, il y a la plus grosse crise biologique majeure qu'on connaisse à la fin du Permien, il y a 252 millions d'années. Là, les thérapsides déclinent énormément, mais il y a un groupe, les dicynodontes, qui survivent, et ils sont hyper spécialisés, ils peuvent être assez gros, peut-être comme des blaireaux, des choses comme ça, mais ils sont hyper spécialisés et herbivores. Et derrière, on a encore une autre crise au Carnien, qui est à 230 millions d'années, et du coup, qui change complètement la végétation.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, d'ailleurs, d'un point de vue climatique?
On passe d'un climat qui était très chaud et sec, à un climat qui est chaud et très humide.
Donc il y a un événement pluvial majeur,
l'événement pluvial du Carnien.
Ouais.
Et du coup, ce changement de végétation est redoutable pour les dicynodontes, et ils disparaissent complètement.
Donc ça, c'est aussi déterminant pour l'évolution des mammifères naissants, en fait, à ce moment-là?
Parce que, effectivement, à ce moment-là, on n'a plus qu'une seule lignée de thérapsides qui existe, les cynodontes, qui va encore se spécialiser dans un truc qu'on appelle les probagnonacia.
Ok.
C'est un peu
difficile
à dire, voilà. Et qui, derrière, on arrive à ce qu'on appelle les mammaliaformes. Donc on est presque aux mammifères, mais pas encore tout à fait.
Pas encore tout à fait. Et là, donc, il y a une cohabitation avec les dinosaures déjà
ce moment-là, c'est au Carnien que les ancêtres, les précurseurs des dinosaures, vraiment, eux, étaient beaucoup plus opportunistes, beaucoup moins spécialisés.
Ouais.
Et ce milieu chaud et humide leur va tout à fait, et ils se déploient partout sur Terre.
Et les derniers thérapsides, en fait, ils vont disparaître quand alors?
Ça dépend du coup, à partir du moment où les mammifères vraiment arrivent, du coup, dans le Trias, vers 215 millions d'années, à partir du moment où on a vraiment les vrais mammifères qui arrivent, c'est justement là où c'est un peu complexe.
Ouais.
On aimait bien avoir des... on sait, par exemple, les mâchoires de reptiles sont composées de 6 os, et nous, notre mâchoire, elle a un seul os. Et il y a les os postérieurs de la mâchoire qui ont migré dans l'oreille interne. Et on aimait bien cette histoire parce que ça délimitait bien. Et en fait, plus on trouve de fossiles, plus on voit qu'on a des formes intermédiaires. Donc
Oui, c'est ça qui est compliqué chez vous. Hein. C'est qu'il faut pas trop s'attacher aux belles histoires ou aux histoires trop simples, Guillaume Billet. Parce que régulièrement, en fait, la découverte de fossiles remet en question tout ça.
Exactement, ouais. On s'est vraiment rendu compte de ça aussi sur les dernières décennies. Il y a une explosion de nouveaux fossiles, de mammifères ou de proches parents des mammifères qui a été faite notamment en Chine. Il y a beaucoup d'explorations paléontologiques sur les dernières décennies là-bas. Beaucoup de trouvailles de fossiles, donc de mammifères ou proches parents. Et ça a remis en cause pas mal de choses, complexifié en tout cas, pas mal de choses de ce que l'on pensait de l'évolution des caractères typiquement mammaliens.
Ouais.
L'exemple qu'a donné Vincent juste à l'instant, c'est ça en fait. Hein, c'est devenu beaucoup plus complexe. On croyait avoir une histoire linéaire, et en fait, un caractère peut apparaître à différents degrés, disparaître, ce qu'on appelle une réversion. Enfin, c'est très très complexe.
Et alors, comment on explique ces petits mammifères, plutôt nocturnes, insectivores? En tout cas, c'est comme ça beaucoup qu'on les décrit. Est-ce que d'abord cette image, elle est réelle? Et qu'est-ce qu'elle raconte, en fait, de cette cohabitation mammifère-dinosaure?
Bon, c'est vrai que ça a été l'image tout le temps qu'on avait des mammifères, donc durant les deux derniers tiers du Mésozoïque, donc à partir de 200 millions d'années, on va dire en gros jusqu'à 65 millions d'années, jusqu'à la crise crétacé-tertiaire. Donc d'avoir des mammifères qui ressemblaient avec des petites formes, donc je disais de quelques centaines de grammes, plus souvent, insectivores, nocturnes. Et ça, c'est vrai, ça correspond à une grosse partie des fossiles de mammifères que l'on trouve, hein, pour ces époques. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Et les découvertes récentes ont vraiment montré qu'on avait toujours des formes d'assez petite taille, mais avec une grosse diversité écologique. En fait, on a trouvé des formes qui étaient subaquatiques, des formes fouisseuses, des formes arboricoles, même des formes qui pratiquaient un vol plané. Donc ça, c'était une diversité écologique, en fait, de ces mammifères-là, à l'époque de leur cohabitation avec les dinosaures, qui n'était pas suspectée il y a encore plusieurs décennies.
Mais il n'y a quand même pas des gros mammifères. Hein.
Non, voilà, les poids...
On reste sur des tailles assez modestes, voilà, quand même.
On reste sur des tailles assez modestes. Il y a eu quand même la trouvaille d'un mammifère qui faisait jusqu'à 10 kilos ou 20 kilos, et ça, c'était déjà assez surprenant, parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Mais c'est vrai que ça reste des tailles très modestes, et évidemment pas comparables à celles de la plupart des dinosaures de l'époque.
Vincent Fernandez, est-ce qu'il y a des innovations biologiques majeures justement qui apparaissent quand même chez ces mammifères pendant la cohabitation avec les dinosaures ? Est-ce qu'il y a des choses qui se développent ?
Alors, oui, mais ce qu'on a découvert, notamment en scannant les fossiles, c'est qu'il y a des choses qui sont arrivées très très tôt. Donc avec notamment ce qu'on a pu scanner au synchrotron, on a pu... voir qu'on a... il y avait la fermeture de ce foramen, mais ce qu'on a pu mettre en...
Donc c'est le crâne,
voilà,
c'est ça.
Le foramen du haut du crâne, oui. Et on a pu regarder aussi la forme de l'oreille interne, et on s'aperçoit qu'il y a un changement qui est drastique au moment du carnien, donc vers 230 millions d'années. Et il semble que cette modification de l'oreille interne pourrait indiquer le passage de l'endothermie, c'est-à-dire que les animaux soient à sang chaud. Donc être à sang chaud pourrait précéder les mammifères, ce qui n'était pas quelque chose qui était vraiment anticipé.
Ouais. Mais c'est un rapport avec les dinosaures ou pas du tout, ces évolutions biologiques-là ?
C'est en quelque sorte, puisque comme on avait des petits thérapsides, donc les thérapsides, on en trouve beaucoup dans les terriers, c'est quelque chose que je fais pour ma recherche, c'est je regarde beaucoup les thérapsides dans les terriers, donc on en a plein avant. Et là, on a, après le Trias, surtout au Carnien, quand elle est... On a surtout des petites formes, et on voit leur bulbe olfactif qui se développe. On voit l'oreille interne qui se réduit, qui semble indiquer un sang chaud. Ils arrivent à survivre parce qu'ils sont petits, et donc ils ont besoin de moins de ressources. Mmh. Ils sont fouisseurs, et ils semblent vraiment se concentrer sur l'olfaction, le toucher et l'audition. Et finalement, ce qu'ils mettent en retrait, c'est la vue. Et donc ça converge vers... ils ont occuper la niche nocturne, fouisseuse au départ, et c'était avant les mammifères déjà.
Cette longue cohabitation en tout cas entre les mammifères et les dinosaures va prendre fin donc brutalement il y a 66 millions d'années, avec les dinosaures non-aviens qui disparaissent, le monde va changer radicalement, et pour les mammifères c'est une nouvelle ère qui commence, c'est ce qu'on va voir avec vous dans un instant, et vous répondrez également aux questions qui arrivent pour vous sur la page de la Terre au Carré. Les mammifères avant, pendant et après les dinosaures, c'est dans la Terre au Carré.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter. De récentes découvertes scientifiques montrent que les dinosaures étaient déjà sur le déclin 10 millions d'années avant l'impact, notamment en raison d'une baisse des températures. Et les dinosaures n'auraient probablement pas survécu aux périodes de refroidissement qui sont survenues après l'impact de l'astéroïde. C'est peut-être mieux pour nous. Difficile, voire impossible pour les mammifères, comme les humains, de se développer avec de si gros prédateurs dans la nature.
Extrait de la chaîne YouTube Les Curieux Nôtres des Sciences, c'était en 2022. Vincent Fernandez et Guillaume Billet, vous êtes paléontologues tous les deux. On s'intéresse avec vous aux tout premiers mammifères, leur cohabitation avec les dinosaures et donc leur développement après la disparition des dinosaures il y a 66 millions d'années. Est-ce que c'est vrai, comme on l'entendait, Guillaume Billet, qu'ils étaient déjà en déclin, les dinosaures, avant même l'impact de l'astéroïde ou pas ?
Certains groupes de dinosaures, potentiellement oui, mais c'était pas prévisible leur extinction comme ça, surtout...
Ça aurait pu durer encore très longtemps, alors.
Oui, potentiellement. En tout cas, le monde tel qu'on connaît aujourd'hui n'aurait pas été le même s'il n'y avait pas eu cet astéroïde, cette crise-là. Quoi.
Effectivement. Et alors donc, il y a 66 millions d'années, l'astéroïde et la disparition donc, des dinosaures non-aviens, puisqu'on a encore les oiseaux qui sont leurs représentants aujourd'hui. Ça ouvre un champ des possibles inédits pour les mammifères, donc à cette époque.
Oui, je pense. En tout cas, apparemment, ça a ouvert la voie à une grosse diversification des mammifères, de certains groupes plus que d'autres à l'intérieur des mammifères. Et ça a surtout laissé des niches écologiques vacantes, des niches écologiques notamment qui correspondaient à des animaux vertébrés terrestres de grande taille. C'était la niche que remplissaient beaucoup de dinosaures. Et on voit très vite, dès le début du Cénozoïque, donc la période qui vient après cette crise crétacé-tertiaire, après l'astéroïde, là on voit tout de suite une augmentation de taille dans plein de lignées de mammifères, ouais. Et une diversification pour occuper ces niches vacantes.
Et comment on l'explique cette augmentation de la taille là ? C'est parce qu'il n'y a plus de concurrence directe avec de grands dinosaures ?
Oui, ça, il n'y a plus personne qui occupe ces niches-là, donc vous avez des ressources qui sont disponibles très vite, et donc la nature n'aime pas le vide. Et ouais. Donc ces niches écologiques vont être occupées assez rapidement par les mammifères qui sont là et de manière opportuniste, c'est avec ça. Beaucoup de temps.
Et ils sont particulièrement bien placés, les mammifères, pour profiter de la situation ?
Il faut croire que oui, en tout cas. Ouais. Ils ont très vite hein, ces augmentations de taille et ces diversifications. On le voit très très vite dès les débuts du Cénozoïque. Et ouais, ça a été un véritable succès à ce niveau-là avec... diversification extrêmement rapide vers plein de types de régimes alimentaires, de spécialisations écologiques qui ont été explosives.
Vincent Fernandez, donc il y a une diversité là aussi chez les mammifères en raison des opportunités qui se présentent à eux, ou en tout cas des niches qui sont laissées vacantes. Hein.
Oui, et je pense en plus qu'ils bénéficient de toutes les évolutions qu'il y a eu pendant le Mésozoïque, donc on a clairement des animaux qui ont développé un pelage, qui ont le sang chaud, qui ont augmenté leur métabolisme, donc ils ont une activité métabolique beaucoup plus intense. Et clairement, ce qu'on voit, oui, c'est qu'on voit une augmentation de taille après la fin des dinosaures qui est rapide. Et c'est rigolo parce que je lisais justement que c'est la taille a augmenté plus vite que le cerveau, donc c'était vraiment... ils avaient de la ressource, ils avaient accès aux ressources, aux végétaux, ouais. Il n'y avait plus de concurrence, et ils pouvaient juste grandir.
Donc c'est génial, quoi. C'est une période, c'est un peu l'âge d'or des mammifères à ce moment-là, non ? Il y a des opportunités intéressantes, avec des grands corps et des tout petits cerveaux, hein, ouais, c'est ce que
après,
vous nous dites ?
Dans l'ensemble, oui, après pas pour tous les mammifères, du coup c'est ça, c'est qu'il y a notre lignée, les mammifères placentaires qui s'en est bien sorti, mais il y a plusieurs lignées de mammifères qui ont un peu décliné, même certaines qui ont complètement disparu.
Ouais, Guillaume Billet, donc il y a quand même un tri qui se fait ?
Oui, en fait, enfin un tri, oui, il y a en effet certains groupes qui étaient présents aussi déjà au Mésozoïque parmi les mammifères qui ont décliné, qui ont encore survécu un petit peu après la crise crétacé-tertiaire, mais qui sont éteints. Là, je parle par exemple du groupe des multituberculés. Mais sinon, aujourd'hui, chez les mammifères, à l'heure actuelle, on a trois grands groupes. On a les monotrèmes, c'est le groupe qui va contenir les ornithorynques, les échidnés, ils pondent encore des œufs. On a les marsupiaux, donc qui ont un développement particulier avec le jeune qui va passer une partie du développement dans la poche maternelle. Ouais. Et puis on a les mammifères placentaires, donc c'est-à-dire nous et tout un tas d'autres mammifères, pour lesquels on a une vie intra-utérine, une gestation prolongée avec un placenta bien développé. Et ça, c'est le
groupe. Et ça domine aujourd'hui largement ?
Oui, largement. On a plus de 90% des espèces de mammifères actuelles qui sont des placentaires.
Ouais. Et pourquoi ça domine alors ? Il y aurait une explication à ça ou pas ? Pareil, du point de vue évolutif, est-ce que il y a une meilleure adaptation possible ?
C'est peut-être un peu compliqué de dire. Bon, en tout cas, parmi les différences qu'il y a avec les autres, on a un métabolisme relativement plus élevé souvent chez les placentaires par rapport aux marsupiaux, notamment. Ouais. Bon, ce mode de développement-là qui peut être avantageux, on a la naissance, donc avec cette gestation prolongée, le petit, quand il naît, il est souvent un peu plus développé, un peu plus grande taille, et notamment, c'est quelque chose parmi les hypothèses qui existent, c'est quelque chose qui a pu leur permettre d'aller explorer des tailles corporelles assez... plus grande assez vite. Quoi.
Ouais. On parle donc de la diversification des mammifères. On pense évidemment au milieu terrestre, mais c'est le cas dans d'autres milieux, dans l'eau par exemple ?
Oui, donc chez les mammifères placentaires notamment, on retrouve donc des spécialisations écologiques à tout type de milieu, la plupart des types de milieux. En tout cas, évidemment, on a des mammifères placentaires aquatiques. On a aujourd'hui tout le groupe des cétacés, donc les baleines et dauphins. Ouais. On a aussi des siréniens, qui sont un peu moins connus, le lamantin, le dugong, qui sont des formes aquatiques. Et aussi
Les grosses vaches d'eau, hein, c'est ça.
Exactement, ouais. Ouais.
Qui ont des bonnes têtes. Hein.
Exactement. Donc on a ces adaptations au milieu aquatique et on a tout un tas d'autres adaptations, spécialisations écologiques à côté, hein, comme le vol chez les chauves-souris.
Voilà. Oh, il y a combien d'espèces de mammifères aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il y a environ 6700 espèces de mammifères actuelles reconnues. Ouais. C'est en constante évolution, on reconnaît encore des espèces actuelles.
Hein. Est-ce que c'est beaucoup ou pas par rapport à d'autres espèces ?
Alors voilà, c'est ça, on parle de succès évolutif jusque-là des mammifères au Cénozoïque, mais si on remet ça en perspective avec d'autres groupes, par exemple si on compare avec les insectes, bah, évidemment c'est très modeste la diversité actuelle des placentaires, les insectes actuels c'est plusieurs millions d'espèces potentiellement. Donc,
Et par rapport aux oiseaux ?
Par rapport aux oiseaux, c'est pareil justement, donc on dit les mammifères, gros succès évolutif après l'extinction des dinosaures non aviens, justement les oiseaux qui ont survécu à la crise, c'est à peu près 10 000 espèces aujourd'hui, c'est un petit peu plus que les mammifères.
Ouais. Qu'est-ce que ça nous raconte Vincent Fernandez, s'il fallait rebouclée justement avec toute cette histoire depuis les thérapsides, donc les précurseurs des mammifères, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous apprend de notre propre place d'humain parmi les mammifères? Qu'on est les héritiers de toute cette histoire-là qu'on vient de se raconter?
Oui, en quelque sorte, on est une lignée parmi les autres, et je pense qu'on n'est pas, les baleines sont très ont un grand succès dans leur milieu, dans leur niche écologique. Les chauves-souris occupent une niche écologique aussi très particulière. Donc nous, on partage avec eux tout ce qui a été en préparation pendant plus de 200 millions d'années.
Donc il y a une histoire très ancienne quand même, faite de plein de rebondissements, comme vous nous les avez décrits tout à l'heure. On va passer aux questions pour vous, et elles sont nombreuses sur franceinter.fr. Et nous avons des messages vocaux sur l'application Radio France. On va commencer par un premier message pour vous.
Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu, alors même que les mammifères ou ceux qui les ont précédés ont survécu et ont prospéré?
Alors, Guillaume Billet, on a répondu un petit peu à la question tout à l'heure déjà, mais on peut la compléter peut-être?
Oui, l'aspect que les dinosaures remplissaient une niche écologique de grande taille aussi. Certains dinosaures étaient carnivores en bout de chaîne alimentaire. C'est souvent ceux qui sont les plus sensibles quand il y a un manque de ressources, parce qu'ils sont en bout de chaîne et c'est des effets cumulatifs en bout de chaîne alimentaire. Les autres dinosaures aussi de grande taille, c'est vraiment souvent parmi les animaux les plus sensibles à des changements, quoi.
Vincent Fernandez.
Oui, j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui est... quand on a des animaux qui sont hyper spécialisés, c'est eux qui vont souffrir. Et finalement, le début des dinosaures, ils ont profité du fait qu'ils étaient opportunistes et très versatiles. Et les mammifères, c'était l'inverse. Enfin, les ancêtres des mammifères, c'était inverse. Et finalement, on a inversé. La lignée des mammifères est devenue plutôt opportuniste et les dinosaures se sont hyper spécialisés. Ouais. Et gros chamboulement écologique, c'est traumatique pour les spécialistes.
Gilles demande si les thérapsides, donc les précurseurs des mammifères, étaient vivipares ou ovipares.
Ah, grande question.
C'est vrai?
C'est une grande question parce que donc on a des milliers de fossiles de thérapsides dans le Karoo.
Ouais.
On n'a jamais trouvé
en Afrique du Sud.
Oui. On n'a jamais trouvé un œuf. Mais ça ne veut pas dire qu'ils pondaient pas des œufs, parce que les oiseaux pondent des œufs à coquille dure, les dinosaures pondent des œufs à coquille dure. On est en train de se demander s'il n'y avait pas quelques espèces de dinosaures qui pondaient des œufs à coquille molle, comme les lézards. Et d'un point de vue évolutif, si on pondait des œufs, ils auraient été plutôt... il y a des grandes chances qu'ils auraient été à coquille molle, donc ils ne se préservent pas bien.
D'accord. Donc, conclusion de l'affaire.
La conclusion, c'est qu'on n'a pas encore, on n'a pas trouvé ni de quelque chose qui ressemble à un œuf, ni un embryon dans une femelle. Donc on n'a pas vrai, on ne sait pas.
Il y a encore des mystères.
Voilà. On a nos opinions, mais on sait.
On va passer une question d'un papa pour vous.
Bonjour, Johan du Loiret. Merci mille fois pour votre émission. J'ai une question pour votre intervenant d'aujourd'hui. On voudrait juste savoir, parce que j'ai mes enfants à côté de moi, qu'est-ce qu'il y aura après nous dans l'évolution de notre planète? Merci à vous.
Elle est tellement simple, cette question, Guillaume Billet. Est-ce que c'est vous qui vous y collez pour répondre?
Ouais, tellement simple et tellement compliqué à la fois.
Ouais, qu'est-ce qu'il y aura après nous, les mammifères ou les humains d'ailleurs?
C'est ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, en tant que paléontologue, je pense qu'on sait qu'il faut être très très modeste face à ces questions parce qu'il y a un énorme côté imprévisible dans ce qui se produit dans l'évolution. Si on devait revenir en arrière au Mésozoïque et à un instant T et nous dire, OK, qu'est-ce qui va se passer dans les 60 prochains millions d'années, on n'aurait absolument pas pu prédire ce qui s'est passé, notamment l'occurrence de la crise. Voilà. Ce que l'on peut peut-être répondre, c'est qu'il y a toutes les espèces animales sont en évolution permanente. Donc, nous, y compris, on va probablement changer aussi un petit peu. Et puis, il y aura toujours de la vie à côté de nous, mais je ne peux pas prédire quelle forme.
Vincent Fernandez, une réponse courte pour compléter.
Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'effectivement, c'est très difficile à prédire.
Il faut laisser l'évolution faire son travail. Et malheureusement, on ne sera pas là pour le voir et pour le décrire. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Je renvoie donc sur le documentaire à voir ce soir sur France 5 auquel vous participez. Vincent Fernandez s'appelle « Aux origines des mammifères, le monde avant les dinosaures ». C'est à 21h dans la case Science Grand Format. Merci à Joël Levert qui a préparé ce dossier aujourd'hui. Noé Chaban et Céline Guiribi à la technique. Jérôme Boulet à la réalisation et Lucie Sarfati pour la programmation de La Terre au Carré.